VOA Afrique Info. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous. Dans moins de 5 minutes, sport, ma édition spéciale Coupe d'Afrique des Nations 2015, présentée par Bagassi Koura. Mais tout d'abord, l'actualité. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, doyen des chefs d'État africains, a accédé aujourd'hui à la présidence tournante de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba. À 90 ans, Robert Mugabe est à la tête du Zimbabwe depuis l'indépendance en 1980. Il est accusé de nombreuses violations des droits de l'homme dans son pays et fait l'objet de sanctions européennes et américaines. Au Niger, le juge du tribunal correctionnel de Niamey s'est déclaré incompétent pour juger le dossier du trafic de bébés dans lequel sont impliquées plusieurs personnalités, dont Ama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale. On fait le point avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Attendu depuis le 2 janvier, la décision du juge est tombée ce vendredi matin. Il déclare son incompétence pour connaître de l'affaire, qui est une affaire pénale et qui n'a pas été jugée au préalable en civil, puisqu'il s'agit d'une supposition d'enfant. En clair, il faut, pour qu'il puisse la juger, qu'un juge civil tranche sur la filiation des enfants avec la condition que les mères des enfants saisissent un tribunal avec les preuves qu'elles sont les vraies mères des 10 enfants. Cette décision du juge fait en fait suite aux exceptions soulevées le jour du procès par les avocats des personnes présumées coupables dans cette affaire. Il s'agit entre autres de l'ancien président de l'Assemblée nationale Hama Amadou ou encore Abdoulabo, ancien ministre d'État à l'agriculture. Après cette décision, le procureur de la République peut faire appel. Dans tous les cas, selon des spécialistes du droit, l'incompétence d'un juge pour connaître d'une affaire n'est pas synonyme de non-lieu. L'affaire des bébés importés n'est donc pas encore à son épilogue. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Afrique du Sud, des jeunes de Kok, célèbre criminel du temps de l'apartheid, a obtenu la liberté conditionnelle. Auteur de kidnapping, de torture et d'assassinat d'opposants au régime raciste alors en vigueur en Afrique du Sud, il a déjà passé 20 ans en prison. Le ministre sud-africain de la Justice, qui a décidé de sa libération, a mis en avant la réconciliation nationale. En Égypte, nouveaux affrontements aujourd'hui entre l'armée et des djihadistes dans le Sinaï. Hier, plusieurs attaques ont fait au moins 30 morts, en majorité des soldats. Ces attaques ont été revendiquées par une branche de l'État islamique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Barack Obama veut investir 215 millions de dollars dans une nouvelle initiative qui permettrait aux médecins d'offrir des traitements personnalisés en fonction de la constitution génétique d'un individu. Le président américain a inclus cette proposition dans son budget pour l'année 2016. L'argent serait utilisé pour la collecte de données relatives aux gènes, aux modes de vie et d'autres facteurs chez 1 million de volontaires. Présidentielle 2016 aux États-Unis, Mitt Romney a mis fin au suspense aujourd'hui, annonçant qu'il ne se portera pas candidat. L'ancien gouverneur républicain du Massachusetts, battu par John McCain en 2008 pour la nomination et par Barack Obama à l'élection de 2012, avait perdu le soutien de plusieurs anciens partisans et donateurs qui ont choisi d'appuyer l'éventuelle candidature de Jeb Bush, le jeune frère de l'ex-président George W. Bush. Au Pakistan, un attentat perpétré en pleine prière du vendredi dans une mosquée chiite a fait au moins 61 morts dans le sud du Pakistan, théâtre de violences intercommunautaires. Claire Morin-Jibou.
L'attentat a été perpétré contre une mosquée chiite à Shikarpur, dans le sud du pays, à environ 500 km de Karachi. Le toit de la mosquée s'est effondré en raison de l'explosion, a confié à l'AFP un témoin, Zaïd Nour. Des centaines de personnes se sont précipitées sur les lieux pour tenter de secourir les personnes prisonnières des décombres. L'attentat a été revendiqué par le Jundullah, un groupuscule peu connu gravitant dans l'orbite des talibans. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le raid des talibans pakistanais qui avait fait 150 morts le 16 décembre dernier dans une école de Peshawar dans le nord-ouest du pays. Ces dernières années, les attaques se sont multipliées contre la minorité musulmane chiite qui représente environ 20% de la population dans ce pays majoritairement sunnite.
En Ukraine, au moins 7 civils sont morts aujourd'hui dans des bombardements entre l'armée et les rebelles séparatistes à Donetsk. Des pourparlers prévus entre les belligérants n'ont pas pu avoir lieu. La suite de nos programmes, c'est Sport Rama, version interactive avec les auditeurs.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama spéciale Cannes sur VOA Afrique et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous attendons bien sûr vos appels en direct ici, le 001-202-619-3140. Le numéro, c'est le 001-202-619-3140. Avec nous ce soir, nos consultants. D'abord, l'incontournable Jules Valentin Ngoué, l'homme du sifflet. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Voilà, et puis nous avons aussi en direct d'Abidjan, Stéphane C. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir, Bagassi. Bonsoir à tous et à quoi, Badi.
Voilà, je pense que la CAN donne un très bon goût à Abidjan là-bas, à tous ces supporters qui nous suivent, hein, qui suivent la CAN, qui commence à prendre goût donc à la qualification et probablement à d'autres victoires des éléphants. Mais on va parler d'abord des matchs des quarts de finale, hein, les premiers matchs demain des quarts de finale. Donc débute avec les Congo, les deux Congo, donc Congo démocratique et Congo Brazzaville, qui ouvre la phase des quarts de finale CAN 2015 à Bata. Demain, ce sera à 16h. Et Claude Leroy, qui a déjà entraîné donc le Congo, qui donc entraîne l'autre Congo et qui a entraîné ces dernières années le Congo démocratique, a donc reconnu que son équipe va avoir le dessus. Il dit qu'il connaît bien les léopards de la RDC, qu'il a entraîné, comme je le disais, jusqu'à l'année dernière. Quel que soit Alpha, on est sûr d'avoir un Congo en demi-finale et j'espère que ce sera notre Congo. Donc ce Congo-là, s'il gagne, affrontera le vainqueur du choc dimanche, Côte d'Ivoire-Algérie. Ah, Jules, ça fait beaucoup de Congo, hein?
Oui, mais il faut dire que la représentation d'ailleurs en Afrique centrale, pour une fois, a été pléthorique. Nous avons eu 5 équipes, 3 sont encore en lice. Et vous le voyez, les deux Congos se rencontrent, mais le rapport de force n'est pas celui qu'on connaît depuis toujours. Et le Congo démocratique est en pleine mutation, en pleine formation, tandis que le Congo Brazzaville a une équipe déjà aguerrie, qui est en place, qui a du vécu.
Ouais, et Stéphane, votre avis, vous pensez que le Brazzaville pourra piéger les léopards de la RDC? Stéphane, c'est Abidjan.
Les deux entraîneurs, Claude Leroy contre Florent Ibengué, ça va être un peu le fils contre le père. Claude Leroy qui n'a plus rien à prouver dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui aura peut-être un petit plus en termes de vécu, en termes d'expérience, en termes de connaissances dans le coaching, et ça pourrait jouer véritablement en faveur de cette équipe du Congo-Brazzaville, qui a été une très bonne formation durant donc ce premier tour. C'est l'équipe qui a engrangé le plus grand nombre de points. Elle a eu 7 points, 2 victoires, 1 match nul. L'équipe a marqué 4 points pour passer 2 fois. C'est une belle machine, bien coachée par Claude Leroy. Et je pense que le Congo Brazza pourrait confirmer face à une équipe de la RDC qui, pour moi, a déjà réussi sa compétition. Ses statistiques dans la compétition sont vraiment pas assez intéressantes parce que l'équipe a 3 points. C'est la seule équipe à avoir marqué 2 buts et qui réussit à se qualifier pour le quart de finale. Enfin bref, je pense que la RDC a déjà réussi sa compétition. Sur ce choc des deux voisins, léger avantage à l'équipe de Congo Brazzaville.
Stéphane, c'est alors Congo contre Congo, hein. Qu'en pensent les Congolais? Nous avons déjà notre premier auditeur en ligne.
Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous êtes à Brazzaville ou à Kinshasa?
Oui, bonsoir. Je suis à Brazzaville, bien sûr.
Oui, alors comment vous voyez cette rencontre contre votre voisin, votre grand voisin?
Bon, tant que Congolais... Les impressions seront tellement subjectives, je dirais.
Oui, allez-y.
A priori, le Congo, Brazzaville, a pris comment à passer 15 ans sans participer à la CAN, sinon 3 ans pour atteindre l'étape de finale, cette étape. Donc, déjà, bravo, coup de chapeau pour les joueurs et tout le staff. Mais bon, mes impressions, c'est quoi? Le Congo Brazzaville va quand même battre le Congo RDC, enfin la RDC.
Oui.
L'avantage, c'est que Claude Leroy a coaché l'équipe de la RDC, donc son adjoint mais que le titulaire actuel de la RDC, son adjoint à l'époque, donc il connaît pratiquement pertinemment son adjoint, donc le sélectionneur actuel, il connaît les joueurs par cœur, donc il saura comment faire pour placer ses joueurs demain et remporter vraiment le match.
D'accord, merci infiniment et bonne chance demain alors. Alors Jules, vous l'avez entendu, hein, le fait que Claude Leroy a juste pris la pirogue pour traverser le fleuve et aller de l'autre côté, et il est donc parti avec plein de secrets qu'il pourra utiliser demain pour battre la RDC, c'est ce que cet auditeur-là pense. C'est votre avis aussi?
Oui, bien sûr. Pour jouer un match de cette envergure, il faut connaître l'adversaire.
Ouais, beaucoup de connaissances de l'adversaire.
Et faire sa stratégie en fonction. Mais les matchs à élimination directe sont surtout, joués en fonction du scénario du match. Donc l'équipe qui marque la première, le plus souvent, remet en cause tout ce qu'on a mis en place comme stratégie. Et c'est surtout le scénario du match qui sera important lors de cette rencontre.
Alors, on le disait, hein, l'entraîneur de la RDC, de Brazzaville, de Congo-Brazzaville, Claude Leroy, il pense que son équipe aura le dessus. C'est que, bien sûr... ne veulent pas entendre les joueurs congolais. On écoute Youssouf Mouloumbou, il est le capitaine des Léopards.
C'est un grand derby et il faut qu'on montre que nous sommes le grand Congo. On a besoin d'aller en demi-finale déjà. On ne peut pas perdre contre le petit frère. Comme on dit chez nous, petit frère bête à Mkolota, donc c'est ça ce qui va se passer.
Voilà, c'était donc Youssouf Mouloumbou, le capitaine des Léopards de la RDC. Et Chancel Mbemba, lui, est milieu de terrain, toujours des Léopards.
Nous-mêmes, on est conscients, on travaille au fond pour prendre les 3 points capitales du match de Congo-Brazzaville. J'ai demandé à tous les peuples congolais, ils prient pour nous.
Voilà, c'était Chancel Mbemba, milieu de terrain des Léopards, le Congo-Kinshasa, dernière demi-finale en 98, si je me rappelle bien. C'était à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et donc, s'est qualifié donc à l'arraché avec 3 matchs nuls. Hein, et le Congo qui a été racheté en raison de sa place de meilleur troisième. Et donc, après ce derby congolais, on aura un quart de finale entre le Nzalang National, l'équipe donc de Guinée équatoriale, qui va affronter les Aigles de Carthage de la Tunisie. Et on nous met signal que nous avons un Congolais, certainement de la RDC cette fois-ci, Nico Dadi. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Comment vous allez?
Oui, ça va très bien. Alors, vous l'avez entendu, hein, les sons qui nous viennent de Brazzaville disent que vous allez perdre, hein, face à votre voisin.
Oui, j'ai entendu beaucoup de commentaires. C'est trop joyeux de ma part.
Ouais.
Mais la RDC contre le Congo-Brazzaville, moi, je crois bien que la RDC, il va remporter les matchs. Puisque depuis son histoire, la RDC est toujours au-dessus de la République du Congo. Mais après tout cela, comme j'ai suivi l'interview de M. Conteroy, il a dit beaucoup plus qu'il connaît les joueurs de la RDC. Oui, mais c'est bien, mais chaque match a son image peut-être. Comme il connaît bien les joueurs de la RDC, mais le joueur aussi connaît comment l'entraîneur évolue dans sa manière de tactique, physique, etc. Mais moi, je crois que la victoire sera le bien là de la côté de la RDC. Nous devons remporter ce match pour améliorer un peu la confiance des joueurs dans le pays ou maîtriser aussi les climats qui s'enflamment chaque jour dans nos pays. Moi, je confie bien que la RDC va gagner.
Oui, la RDC va gagner avec quel score?
La RDC va gagner. Dans le premier mi-temps, on doit marquer un but. La seconde mi-temps, on doit clôturer aussi par un but. Les 2-0, à peu près.
D'accord, merci beaucoup et bonne chance. Merci de rester à l'écoute. Et comme je le disais, l'équipe locale, la Guinée équatoriale, va affronter la Tunisie. Jules, comment vous voyez cette rencontre? Est-ce que la Guinée peut encore surprendre lors de cette CAN?
Oui, c'est une rencontre atypique vraiment et la question est bien posée parce que la Guinée jusque-là était dans un rôle de outsider très modeste et ce rôle lui a permis d'arriver en quart de finale et il a surpris tous ses adversaires. Mais cette fois-ci, c'est vraiment un pays que les adversaires vont considérer comme le pays hôte, le pays sais pas moi, soutenu par son public et qu'on affronte et qui est en fait un favori. Et nominalement. Ouais. Bon, alors la Tunisie qui a la science du jeu, qui est très tactique, c'est une équipe très tactique et très sérieuse, qui s'est fermée, mais qui s'est aussi accélérée au bon moment, qui s'est jouée intelligent, je crois que ce sera un très gros morceau pour la Guinée équatoriale.
Alors, donc, Jules, il y a ce match hein, dimanche à suivre, ce choc Algérie-Côte d'Ivoire. Et après, on aura Ghana-Guinée. Sur ce match Côte d'Ivoire, bien sûr, les éléphants ne parlent plus de génération dorée, hein, Stéphane C. Mais cette Côte d'Ivoire qui a démarré timidement semble rassurer désormais les Ivoiriens. Stéphane.
Merci beaucoup. Et il y a une grosse satisfaction ce moment au niveau des Ivoiriens sur ce qu'Hervé Renard et ses garçons nous ont produit hein, sur ce match, notamment face à l'équipe du Cameroun. C'était un match très attendu. Les Ivoiriens ont répondu présents dans ce rendez-vous. Alors contre l'Algérie, c'est une belle affiche, hein, c'est le quart de finale. C'est le nouveau numéro 1 africain contre l'ancien numéro 1. Deux gros volumes de jeu, deux valeurs sur le football africain. Sur l'histoire, en 90, l'Algérie gagne la Côte d'Ivoire 3-0 et remporte la CAN. En 92, la Côte d'Ivoire gagne l'Algérie 3-0 en phase de poule et gagne la CAN. Donc, sur ça, les deux se connaissent quelque peu. La Côte d'Ivoire retrouve son jeu. Elle a du caractère. L'équipe est certainement en confiance après avoir réalisé un bon résultat pour l'équipe du Cameroun. Et puis, en plus, elle va retrouver deux gros titulaires. Gervinho, suspendu depuis son carton rouge du premier match. Et puis, Totechek, qui n'était pas là face à l'équipe du Cameroun. Mais en face, il aura l'Algérie. C'est une équipe qui est solide, qui aime les défis. Certains auront vraiment l'occasion de confirmer véritablement leur statut de géant du continent. De mon point de vue, c'est une finale avant la lettre. C'est peut-être la plus belle affiche de ce quart de finale et on va prendre énormément de plaisir à suivre cette rencontre le dimanche.
Voilà, il faut dire que l'Algérie a été donnée favorite avant même le début de cette compétition. Et nous avons joint à Alger notre confrère Ibrahim Taharout. Il nous parle d'abord de comment cette CAN est vécue dans ce pays.
Oui, tout à fait. Il y a une crainte vis-à-vis de l'équipe ivoirienne, effectivement, parce que c'est une très grande équipe qu'on a eu déjà à affronter. Cela d'une part. D'autre part, parce qu'aussi nous avons au moins deux joueurs blessés, dont notamment notre avant-centre, notre joueur fétiche qui marque à chaque fois des buts, qui est blessé, qui ne fera pas partie de l'équipe. Donc il y a un petit peu cette crainte, effectivement. Mais bon, sinon, on a comme la conviction que nous allons gagner le match.
Oui, parce que la conviction à Alger aussi, c'est aussi la Coupe, hein, c'est ça votre objectif?
Tout à fait, tout à fait, c'est la Coupe d'Afrique. Bon, nous, on se dit, si on passe ce cap, c'est bon, on est bien parti pour une deuxième Coupe d'Afrique.
Mais globalement, comment les Algériens trouvent le niveau de l'équipe?
Ils ont une petite frustration par rapport à ce qu'ils ont vu au Mondial. Il manque un peu de punch, ils n'ont pas été très très offensifs dès le début. Donc globalement, ils trouvent que l'équipe est légèrement moindre à ce qu'elle était durant le Mondial.
Ouais, mais c'est quand même une Algérie très réaliste qu'on a vue. Hein.
Avouant que c'était un coup de chance, parce que les Africains du Sud allaient quand même tuer le match. Ils ont marqué un but, ils ont eu un penalty qu'ils ont raté, et c'était le tournant du match, c'était... Le football, c'est aussi la chance. Donc l'Algérie a eu de la chance.
Et qu'est-ce que les gens disent sur Christian Gourcoff?
Vous savez, les gens disent, bon, c'est vrai que c'est un éducateur, mais ils attendent de voir où ira cet entraîneur, parce que c'est un entraîneur qu'il surveille de très très près, qu'il respecte beaucoup, parce que c'est un éducateur, et puis c'est quelqu'un de très mesuré, de très zen.
D'accord. Et votre score?
le score, c'est... moi, je vois un score de 2-1 pour l'Algérie.
Voilà. Stéphane, tu as le score, hein?
Oui, mais bon, on verra bien. Là, ça va se jouer sur le terrain. Cette équipe de l'Algérie, j'avoue que c'est vrai, il y a eu la Coupe du Monde où elle a été belle. Il y a eu les éliminatoires où elle a confirmé trop tôt. Mais sur cette compétition, ce n'est pas la grosse équipe qu'on attendait. Hein, parce qu'elle souffre d'abord face à l'Afrique du Sud. Et qu'elle gagne 3-1 parce que les Sud-Africains ont mal géré le match. Ensuite, elle se fait battre par le Ghana sur une dernière action du match. Et puis bon, elle a de la réaction qu'elle demande bien face au Sénégal. Qu'elle gagne 2-0. C'est bien, c'est une bonne équipe. Mais je dis, les Ivoiriens n'ont pas plus peur de l'Algérie que de l'équipe du Cameroun. Face au Cameroun, il y a eu une grosse peur. L'équipe a montré vraiment du caractère. Le caractère qui a fait réagir face à la Guinée lorsque la Côte d'Ivoire était menée. Et face au Mali lorsque la Côte d'Ivoire était également menée. Et la confirmation face à l'équipe du Cameroun. Je pense que c'est une équipe ivoirienne qui aura son mot à dire face à cette équipe de l'Algérie.
Alors Jules, rapidement, vous l'avez entendu notre confrère algérien Ibrahim Taharout dire que si l'Algérie passe ce cap, elle aura sa deuxième Coupe d'Afrique.
Oui, je suis pas totalement d'accord avec lui, mais il faut dire que c'est le sommet quand même pour le moment de cette Coupe des Nations. Je crois que c'est le sommet et que c'est un match difficile. Mais l'expérience m'a démontré que les matchs couperés à partir des quarts de finale sont des matchs tous particuliers. Donc, il faut une coupe qui est aussi équilibrée et il est interdit de faire des pronostics.
Oui, il est interdit de faire des pronostics. Et dans l'autre match de dimanche, hein, les Black Stars du Ghana seront face au Sili National de Guinée. Et là, on me signale qu'il y a un Guinéen qui est en ligne. Bonsoir. Allô?
Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, comment vous avez suivi le tirage au sort hier?
Bon, exactement, nous, en tant que Maliens, nous dénonçons cette tirage au sort.
Parce c'est un Malien.
Nous pensons qu'en tant que match de football, ça doit être quelque chose qui doit être physiquement...
Non. Allô?
Oui.
Oui, bonsoir. On me signale qu'on a maintenant Fantasekou.
Oui, c'est Fantasekou.
Et vous, vous êtes où, à Bamako ou à Conakry?
Non. J'étais à la Guinée-Conakry.
Et alors, comment vous avez vécu donc ce tirage au sort hier?
Ah, j'étais très content. Mon équipe est qualifiée au quart de finale. J'étais très content de ça, quoi. C'est ça seulement.
Ah, vous étiez très content. Et comment vous voyez ce match contre les Ghanéens?
Non, on va gagner là. On va gagner. On va gagner 3-0, Inch'Allah.
Ouais. Alors... Ismaïla Maïga, vous l'avez entendu, hein, vous êtes à Bamako, les Guinéens disent qu'ils vont gagner, c'est votre avis?
Oui, vous savez, ils sont gagnés lors du tirage, mais ce que je dis, nous en tant que Maliens, nous dénonçons ce tirage au sort, parce que ce que nous pensons en tant que de football, on doit passer physiquement dans les terrains, au lieu d'appliquer certains articles dans les règlements du CAF. Bon, cet article, la COP, c'était nos frères. C'est pour cela que ça a dérangé beaucoup de Maliens qui n'ont pas d'accord avec ça, qui ont même voulu manifester. Mais réellement, c'était trop près. Si ça trouve que moi, j'étais en contact
avec quelqu'un. Pourquoi manifester? Les règles n'étaient pas dirigées contre le Mali. C'est juste des règles que, malheureusement, vous êtes tombé dans ce piège-là. Les règles étaient là bien avant que le Mali ne connaisse son sort.
Oui, exactement, les règles étaient là. Mais ce que nous voulons, il faut que ça soit quelque chose qui se déroule dans les terrains.
Ouais.
C'est lors des terrains. C'est ça qui nous a beaucoup choqués.
Ouais.
Parce que nous sommes sûrs, si c'était, ils sont passés dans les prolongations, notre équipe sera gagnée.
Ouais, d'accord. Merci infiniment. C'était Ismaïl Maïga à Bamako et Fanta Sekou à Conakry en Guinée. Et Jules, vous l'avez entendu, hein, cette amertume, je pense que de Bamako, hein, je pense que c'est partagé un peu partout sur le continent. Personne n'a vraiment compris pourquoi la CAF a décidé de passer non seulement par le tirage au sort, mais aussi de remettre ça au lendemain, Jules.
Oui, mais il faut dire que c'est une réaction humaine, elle est naturelle. Mais beaucoup ne comprennent pas qu'à l'heure actuelle, le football africain est aux normes mondiales. C'est le seul domaine dans lequel les Africains tutoient le monde le plus développé. Donc, une grande compétition comme celle-là a ses règles et on les respecte. Il y a des engagements financiers, il y a des engagements techniques. Tout est chronométré. Donc, les Africains doivent comprendre, c'est ça la loi. Bien sûr, on a eu cette opportunité que les deux équipes se rencontraient, qu'on aurait pu avoir peut-être une séance de tir au but, mais toujours est-il que ça n'a pas été le cas et la CAF a choisi de jouer plutôt, de présenter plutôt un visage où la légalité l'emporte sur la légitimité.
Alors, n'empêche qu'à Conakry, hein, c'était l'explosion de joie une fois le tirage au sort terminé, comme nous le dit Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Alors, énorme explosion de joie à l'annonce de la qualification du Sili National. Des gens, des supporters, on va dire les populations de la capitale sont sortis pour manifester leur joie, saluer cette qualification. Et à même endroit, on criait « Ebola a gagné, Ebola a gagné », comme si on cherchait, comme si on cherchait un soulagement dans la douleur, donc le mal qu'est Ebola. Donc les gens sont sortis crier leur joie.
Alors il faut le dire, hein, la Guinée vient de très loin, hein, après avoir joué tous ces matchs de qualification à l'étranger, en l'occurrence au Maroc. Qu'est-ce que les gens disent maintenant? Ils pensent à la Coupe?
Ah oui, les gens, maintenant la barre est placée très haut, c'est la Coupe. Alors on pense au match à la rencontre contre le Cameroun, on passe à la rencontre contre également la Côte d'Ivoire. Et à Conakry, les gens s'accordent à dire que la Guinée peut gagner cette Coupe d'Afrique des Nations.
Donc on va vous souhaiter bonne chance. Et vous, est-ce que vous avez un score, Zakaria?
Ben alors, le score c'est, disons, 4-1. 4 pour la Guinée et 1 pour le Ghana.
D'accord, on vous souhaite une très bonne chance. Voilà Stéphane, vous avez joué, je veux dire, les éléphants ont joué contre cette équipe de Guinée, match nul. Je crois un but partout. Donc, ayant vu cette équipe évoluer, comment vous voyez cette rencontre demain?
Bon, ça va être un match assez difficile pour les Guinéens, pour être honnête avec vous, parce que le Ghana m'a paru plus convaincant que l'équipe de la Guinée. C'est vrai que le Ghana tombe contre le Sénégal. Ensuite, il y a belle réaction face à l'Algérie, hein, qu'elle gagne dans les derniers instants avec ce fameux but de Guyane à Samoa. Ensuite, le Ghana se fait mener face à l'Afrique du Sud et revient pour s'imposer 2-1. Je pense que c'est une équipe ghanéenne qui monte en puissance, comme toutes les grandes équipes, que sont la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Donc, le Ghana monte en puissance. La Guinée va avoir du mal. C'est vrai que c'est la seule équipe qui n'a pas gagné, surtout les qualifiés de ces quarts de finale. C'est trois matchs nuls. C'est un indice un peu inattendu à ce niveau de la compétition, parce que dans le groupe B, les deux favoris, c'était la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, je pense que la position de quart de finale, c'est déjà une belle réussite pour l'équipe de la Guinée. On est content pour elle, en raison donc de ce tirage de sort qui la qualifie, en raison de Ebola, et puis les matchs joués à l'extérieur. Bravo pour les Guinéens, c'est déjà bien, mais là, ça va être difficile. Je voulais avoir une pensée pour les Maliens, parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a vécu ça en 88, quand on a été sortis de la compétition au profit de l'équipe de l'Algérie, lors de la CAN au Maroc. Donc, ce tirage de sort est vraiment triste. La Guinée a déjà fait un bon parcours. C'est bien d'avoir tenu en échec la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais là, contre le Ghana, ça va être un peu plus difficile. Mais je pense que c'est une équipe qui a la possibilité de jouer son batou face au Black Star du Ghana.
Oui, d'accord. Stéphane, c'est à Abidjan. Et comment était donc l'arbitrage lors de ce premier tour? Eh bien, nous avons joint un expert en la matière. Il s'agit de l'ancien arbitre international burkinabé, Lassina Paré.
Le niveau a été quand même relevé. Quand on sait que la CAF cette année a rappelé tous les anciens briscards donc de la chose, je veux parler des plus expérimentés qui étaient à la Coupe du Monde. Donc, on saurait dire que l'arbitrage était vraiment à la hauteur de la compétition, parce que il faut pas se leurrer aussi, les équipes étaient à la hauteur, parce que le jeu cette année était beaucoup plus relevé que les échéances passées.
Gilles, vous l'avez entendu, hein, de la part d'un expert, d'un ancien arbitre international, l'arbitrage est assez bon cette année.
Oui, l'arbitrage est passé, c'est d'un très haut niveau. Oui. Et je crois même que la progression du football africain est liée à l'amélioration de l'arbitrage en Afrique. C'est un arbitrage, il peut arriver des erreurs d'appréciation, mais il n'y a vraiment pas de lacune marquante, et je crois que avec une compétition aussi équilibrée, des équipes qui cherchent à marquer l'histoire et qui ont toutes leurs chances, nous sommes vraiment tombés sur une Coupe des Nations idéale.
Alors, il nous reste une petite minute. Hein. Stéphane, Gervinho, il sera de retour, bien sûr.
Ah, sera naturellement le retour. Il nous a manqué pendant deux matchs. Ben, il sera là, il va être encore le fer de lance de cette attaque ivoirienne. Il y aura également le retour de Tchoté Cheikh, le milieu de terrain de Newcastle, qui n'a pas joué contre le Cameroun. Tout ça mélangé à une équipe ivoirienne qui a envie,
qui est sorti de loin et qui a bien réagi face à l'équipe du Cameroun. Ça va donner une équipe explosive. Il semble que Hervé Renard a trouvé enfin sa stratégie. Il a abandonné son fameux 4-3-3 pour arriver à un 3-5-2 qui porte ses fruits. Dimanche, ça va être gros, ça va être fort, ça va être terrible et la Côte d'Ivoire attend l'Algérie.
D'accord. Merci infiniment. Je vous rappelle les affiches de ces quarts de finale. Demain samedi, RDC contre la République du Congo et Tunisie contre la Guinée équatoriale. Dimanche, Côte d'Ivoire, Algérie et Ghana, Guinée. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos consultants Stéphane Sey à Abidjan et Jules Valentin Ngoué à Libreville. Bonsoir à tous.
Bonsoir. Olé, olé, olé.